Étude sur Cantique. Olivier et l'autre Laurent.
Je te connais, oh Jésus. Te connais. Il n'y a rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma joie et ma justice. Oh Seigneur.
Salut à vous tous, auditeurs et auditrices de cette fréquence évangélique. Bienvenue à l'heure de l'émission Études sur Cantique. Cette émission qui a pour objectif de prendre un cantique chrétien et de l'étudier à la lumière de la parole de Dieu. Et nous sommes là tous les dimanches après-midi à cette heure-ci. Pendant une heure de temps, on essaie d'écouter la chanson et on essaie de décrypter les paroles du cantique au travers des saintes écritures. Je suis avec notre bien-aimé frère. L'autre Laurent, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, comment as-tu passé la semaine, l'autre Laurent?
Rends grâce à Dieu.
Voilà, nous sommes encore présents en ce moment dans ce studio pour étudier un cantique qui est intitulé Toucher Jésus. Je vais vous laisser écouter le cantique. C'est une chorale qui l'interprète et je vous laisse avec la chanson. C'est en français, bien sûr. Cette fois-ci, ce n'est pas en anglais, mais c'est en français. On l'écoute.
Une femme essaya plus, je docteur, mais souffrant. Elle vint donc à Jésus. Quand la foule essaya de l'empêcher, elle pleura à Jésus avec douleur. Touchez Jésus.
Touchez Jésus.
Nous allons dès à présent vous donner les paroles de ce cantique avec notre frère Laurent. Touchez Jésus, quelles sont les paroles de ce cantique?
Très bien, je vous donne d'abord les paroles en anglais. Le premier couplet dit ceci: A woman tried many physicians, yet grew worse, so to Jesus she came. And when a crowd tried to restrain her, she whispered this word through her pain. Le refrain dit ceci: Touching Jesus is all that matters. Then your life will never be the same. There is only one way to touch him. Just believe when you call on his name. Le deuxième couplet: I was bound when I knelt at that old altar. But when they said Jesus could meet every need, and when this prisoner finally touched Jesus, he set me free, praise the Lord, free indeed. Donc en français, nous avons, premier couplet, une femme essaya plusieurs docteurs, mais souffrant, elle vint donc à Jésus. Quand la foule essaya de l'empêcher, elle pleura à Jésus avec douleur. Le refrain: toucher Jésus, est-ce qui importe, et ta vie ne sera plus la même. Il n'y a qu'une seule voie pour le toucher, crois seulement en invoquant son nom. Deuxième couplet: en venant à cet autel, j'étais lié, et j'ai appris que Jésus pourrait tout me faire. Et quand finalement j'ai touché Jésus, gloire au Seigneur, car je fus libéré.
Très bien. Qui est l'auteur de ce chant?
Le cantique, dans sa version originale, est l'œuvre de Dimmi Swaggart, qui est un Américain, bien entendu. Il est né le 15 mars 1935. Il est évangéliste, il est auteur, pasteur, pianiste, et bien entendu, il chante. Dans les années 1971, il a commencé un ministère d'évangélisation par la télévision. Oui. Et quoi, il s'en est tenu à ça. Et au fil des temps, lorsque l'internet est venu, il est actuellement de plein pied dans des émissions sur internet.
Sur internet. Très bien. Merci, l'autre Laurent, pour ses précisions. Il est l'un des tout premiers télé-évangélistes, hein, si j'en crois bien la biographie de ce monsieur. L'un des tout premiers télé-évangélistes. C'est exact, non, l'autre Laurent?
Oui, mais aux États-Unis, ils étaient plusieurs. Hein. Je ne voulais pas rentrer dans tous ces détails, parce qu'il y a d'autres aussi qui le faisaient. Donc, je n'ai pas voulu aller là, parce que je vais m'étendre sur beaucoup plus d'informations. Mais c'est pour cela que j'ai dit, bon, il est télé-évangéliste.
Oui, voilà. Très bien. On va encore écouter le cantique en français. Nous rappelons que c'est composé de deux couplets et un refrain. Et on écoute la version française de Toucher Jésus, version chorale, bien sûr.
Une femme essaya plusieurs docteurs, mais souffrant, elle vint donc à Jésus. Quand la foule essaya de l'empêcher, elle pleura Jésus avec douleur. Touchez Jésus,
touchez Jésus, elle se dit
est bon,
et ta vie ne sera plus la même. Il n'y a plus de foi pour le toucher, pas seulement un héros à son nom.
Touchez Jésus.
Elle se dit importe, et ta vie ne sera
maintenant à cet autel j'étais lié. Et j'ai appris que Jésus pourrait tout me faire. Et quand finalement je touchais Jésus, gloire au Seigneur, quand je fus libéré, touchez Jésus.
Touchez Jésus, est-ce qui est bon? Car
ce qui est faux,
et ta vie ne sera plus la même.
Ne sera plus la même.
Il n'y a plus de pas pour le toucher, pas sa mort, un dévot d'un
autre. Oh, touchez Jésus.
Nous allons dès à présent aborder la phase commentaire de ce cantique, hein, et on va attaquer, commencer avec la première strophe, l'autre Laurent. La première strophe relate le récit d'une femme. C'est vrai qu'on connaît bien le récit, mais ça n'empêche qu'on puisse revenir sur ça. Mais qui était-elle et de par le chant, quelle était sa condition?
Bon, là, ici, il est question d'une femme dont l'histoire a été relatée dans Marc, dans l'évangile selon Marc, le chapitre 5, et dans l'évangile selon Luc, le chapitre 8. D'accord? Donc, selon le test que nous avons sous les yeux, il y a un résumé, une femme, essaya plusieurs docteurs. Bon, là, c'était un résumé. Mais souffrant, elle vint donc à Jésus. Maintenant, quand on continue avec la suite, je m'appuie sur le test biblique, et là, on va voir, il y aura une dissonance entre ce que dit le test biblique et ce que dit la chanson.
Ouais,
bien,
ouais.
La chanson en français est la résultante de ce qui est dit en anglais par Jimmy Swaggart. Là, il faut retenir que cette femme était réellement souffrante. Elle était malade, elle perdait du sang continuellement, et ce pendant 12 ans, selon les récits bibliques. Donc, vous pouvez imaginer l'embarras qu'elle a, et puis à l'époque, avec des idées de ses compatriotes, religieux surtout. Ce n'était pas une situation très agréable à vivre. Hein. Donc, elle avait entendu parler de Jésus. Comment? Marc chapitre 3. N'oubliez pas tout à l'heure, je vous ai dit que le test est dans Marc chapitre 5. Maintenant, dans Marc chapitre 3, au verset 10, il est écrit ceci, « Car comme il, c'est-à-dire Jésus, guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. » Donc, c'était, je ne sais pas comment ça a commencé, mais les gens finissent par comprendre que si vous touchez Jésus,
quelque chose se produisait.
Oui. Et le résultat, c'est que les gens étaient guéris. Donc, elle a entendu parler de ça. Donc, sa foi a été galvanisée par le fait que si d'autres l'ont touché, ont été guéris, si je le touche,
également,
je serai guéri. Aussi guéri. D'accord? Et si on, quand on va évoluer dans le test, quand on prend le test biblique, il y a des événements là qui peuvent nous ouvrir les yeux. Entre-temps, Jésus était allé à Gadara, il venait de délivrer un forcené, un possédé, et il l'a renvoyé pour qu'il aille prêcher l'évangile. Il revient sur l'autre rive, donc il y avait toute une foule qui était là, et voilà, Jairus, responsable d'une synagogue, vient le voir. Voilà, ma fille est très mal en point, il faut venir lui imposer les mains. Vous voyez, donc il lui a de même indiqué comment guérir sa fille. Il faut venir lui imposer les mains, il faut venir toucher ma fille et ma fille sera guérie. Donc Jésus s'était mis en route, et quand l'incident dont nous sommes en train de parler s'était produit. D'accord ? Donc là, j'ai une petite parenthèse pour dire, pendant 3 ans et demi, disons, les disciples ont été avec Jésus, ils ont été en contact avec lui. Même Jean pouvait se coucher sur sa poitrine, c'est ce que dit les textes bibliques.
Ouais, exactement.
Mais aucun d'entre eux n'a pu le toucher par la foi. Parce que quand on le touche par la foi, quelque chose se déclenche. Donc, ses disciples, ses apôtres étaient en contact avec lui presque tout le temps, mais rien ne s'est produit.
La familiarité n'a
pas produit. Peut-être que oui, peut-être la familiarité
n'a pas produit le miracle.
Oui.
On ne croyait plus tellement, on lui croyait entre griffes, bon, hein, on le met en suspens.
Tu sais, quand tu es proche de quelqu'un, tu finis par perdre de vue. En anglais, il y a une idée qui est bien rendue quand on dit familiarity breeds contempt. Quand tu es trop proche de quelqu'un, tu finis par lui manquer de respect et puis de voir dans la personne qui elle est réellement. D'accord? Donc là, c'est juste un élément qu'il faut considérer. Et il a fallu qu'à un moment donné, le Seigneur demande aux disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Si vous êtes avec quelqu'un qui est juif, il te pose cette question. Quand tu auras fini de répondre, toi-même, tu vas commencer par te dire, qu'est-ce qu'il veut me dire? Pourquoi il me dit ça? Après, on a dit, vous là, maintenant, entre vous, vous là, qui dites-vous? Qui dites-vous que je suis?
Oui, c'est exactement.
Et personne n'a pu parler, bon, comme Pierre a parlé. Et cette fois-ci, c'est Dieu qui l'a aidé et il a reconnu celui qu'ils ont en face d'eux. Israël attendait son Messie. Le Messie est venu. Mais il ne le connaissait pas. Parce que si tu le vois physiquement, tu ne sauras pas que c'est le Messie. Tu as besoin de révélation. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc sans révélation, à cette époque-là, si on était en Galilée ou autre, là, on passerait à côté de lui, hein, sans que ça ait une certaine incidence sur nous. D'accord ? Donc c'est important de comprendre cela. Et dernier jour, avant qu'il ne soit arrêté, et Philippe lui dit, mais montre-nous le Père, et puis ça nous suffit. Jésus était étonné, dit, Philippe, ça fait longtemps que je suis avec toi, et comment dis-tu, montre-nous le Père? Tu ne sais pas que si quelqu'un me voit, la personne voit le Père. Parce que justement, le Père résidait dans l'homme Jésus. Le Père résidait en lui, par son esprit. Voilà pourquoi à la croix, à un moment donné, il dira, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'en ce moment-là, il prenait sur lui le péché de l'humanité, donc il y a, là, Dieu ne pouvait pas se mêler à tout ça. Donc, et là, vous allez voir, c'est pour cela qu'à sa résurrection, n'oubliez pas la croix, il s'est vidé de tout son sang. D'accord? Et c'est un véritable cadavre qu'on a enseveli. Il était réellement mort. Mais à la résurrection, c'est un corps nouveau. Le corps physique est la main, c'est rempli maintenant de la vie divine. Et quelque chose s'est passé, c'est un corps glorifié. Et à partir de ce moment, ce n'est plus le Jésus de Nazareth qui pouvait être en un seul endroit à la fois. Maintenant, il est devenu un esprit vivifiant. Ça veut dire qu'il peut se multiplier à l'infini. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il vit dans les disciples. Donc, je dis tout cela pour que nous comprenions un peu la scène, ce qui s'est passé. La dame a entendu parler de Jésus et elle se disait, bon, si j'arrive à le toucher, moi aussi je serai guéri. C'est la même chose. Vous entendez parler de l'évangile, vous croyez en Jésus, en ce qu'il a fait à la croix, pour vous personnellement. On ne croit pas à la place de quelqu'un. Vous croyez et vous l'appliquez à votre vie personnellement. Vous croyez qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour. Si vous êtes sincère dans votre repentance et dans votre conversion, automatiquement le miracle de Dieu se produit. Et vous savez sans l'ombre d'un doute que Jésus est réel. Mais si tel n'est pas le cas chez vous, ben c'est parce que vous n'avez pas encore fait l'expérience avec Jésus. Vous n'avez pas encore fait cette expérience. Si vous l'avez faite, c'est une réalité. Partout sur la face de la terre, tous ceux qui l'ont rencontré savent par eux-mêmes, par expérience,
personnel que Jésus est vivant. Et dès ce moment-là, il commence pas à te parler. Il commence pas à te t'amener à comprendre qu'il est là, que tu peux discuter avec lui. Tu peux lui poser des questions, il te répond. Tu peux lui exposer tes défis et autres là, il te répond. Et là, personne ne peut venir de l'extérieur pour te dire, oh, cette histoire de Jésus, oh, il paraît que... Non, quand quelqu'un dit ça, tu vas juste sourire. Pourquoi? Parce que tu as l'expérience. L'autre n'a pas l'expérience. Celui qui possède l'expérience n'est pas à la merci de celui qui est sans expérience. Donc, vous voyez un peu, donc, l'histoire de cette femme, plus tard quand vous continuez dans le livre de Marc, vous allez voir qu'après, d'autres personnes aussi ont commencé à toucher Jésus parce que la femme a été l'a touchée, elle a été guérie. Et là, ça s'est répandu. Aujourd'hui, quiconque écoute la parole du royaume, l'évangile du royaume, tel que les apôtres l'ont prêché, si vous écoutez ça et que vous croyez, ce qui vous rend, je sais pas, esclave et autres là, cette chose-là s'en va instantanément. Mais si on vous parle d'un autre Jésus, là, vous, malheureusement, vous pouvez pas être sauvé parce que le Saint-Esprit ne peut pas appuyer un message qui contredit les saintes écritures, qui contredit les principes du royaume. Il est mort pour mes péchés, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, et il est monté aux cieux. Donc sa résurrection me confère la justification. Si je ne crois pas en ce message de l'évangile-là, si on présente ça autrement, il n'y aura pas de miracle. On a tout fait les classes où on parlait de bleu de méthylène qu'il faut ajouter à ça, et puis ça donne ce certain principe, n'est-ce pas? Partout sur la terre, quand vous allez en labo et que vous prenez telle substance, vous mélangez, vous aurez le même résultat partout sur la face de la terre. C'est la même chose. Donc quand vous écoutez l'évangile du royaume et que vous croyez en cet évangile-là, le Saint-Esprit maintenant appuie le message qui est prêché. Si vous êtes malade, là vous serez guéri. Si vous êtes possédé, les démons sortent. Si vous êtes dans le doute, là il se révèle. Et ce n'est pas celui qui communique le message qui est le détenteur de la puissance. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a plein de gens qui sont confus. Ils pensent que c'est les porteurs du message qui sont puissants. Non. Quand on va évoluer, je vais un peu expliquer ces éléments-là.
Oui, très bien. Il y a un élément qui m'a paru quand même bizarre dans la première strophe. Je crois que tu avais déjà commencé, tu avais brossé ça. Est-ce que la foule a essayé d'empêcher la dame?
Non, non.
Ça, c'est la première question que je me suis posée.
Non. Parce que la
dame s'est frayée le chemin.
Oui.
Et non pas la foule.
La foule ne l'a pas empêchée.
Oui.
Pourquoi?
Oui.
La foule était plutôt occupée. Chacun voulait toucher. La foule pressait Jésus. Chacun le touchait. Mais tous ces gens le touchaient, rien ne se passait. Parce qu'ils ne le touchaient pas par la foi. Ils ne le touchaient pas en étant en état dans le désespoir. Cette femme-là était désespérée. Vous savez, il y a un moment dans la vie de l'homme où, avant que Dieu n'intervienne, vous devez être au bout du rouleau. Et ça, c'est l'histoire de la femme. Elle a essayé tout ce qu'elle connaissait. Et il n'y avait plus d'issue. Souvent, les miracles se produisent lorsque l'homme est à son extrémité. Quelqu'un a dit, l'extrémité de l'homme, c'est l'opportunité de Dieu. Quand, humainement parlant, il n'y a plus rien à faire. Tu sais, c'est en ce moment concret. Quand quelqu'un ne sait pas nager, par exemple, et il est dans le fleuve ou dans la rivière, et puis d'un seul coup, il se débat, parce qu'il veut à la surface de l'eau, et il voit sur la rive, là, des gens, il va crier. Ce cri qu'on pousse à cet instant-là. Quand on est dans cet état, on crie à Dieu, il intervient. Pierre avait connu la même situation, sauve-moi, et le Seigneur est venu la sauver. Ça n'a pas besoin de tout un paragraphe, c'est juste un cri qui vient du fond du cœur. Donc, tous ceux qui touchaient le Seigneur ne pouvaient pas recevoir quoi que ce soit. D'accord. Tu vois, pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, quand on lit par exemple Lévitique, autant pour moi, Lévitique chapitre 12, à partir du verset 1, je crois, jusqu'au verset 7, là il est parlé de la femme, lorsque une femme venait à mettre au monde un garçon. Il y a un temps qu'elle va mettre pour se purifier de son flux de sang. D'accord? Si c'est une fille, je ne lis pas tout le texte à cause de notre temps. Si c'est une fille, il y a également un temps. Et après, elle doit se montrer au souverain sacrificateur qui maintenant va faire expiation pour elle. D'accord? Maintenant, prenons l'histoire de cette femme-là. Elle a perpétuellement un flux de sang. Ça veut dire qu'elle est perpétuellement impure. D'accord? Alors, ceux qui sont au courant de ça, si une telle femme s'approche, c'est comme aujourd'hui, par exemple, à l'époque où il y avait Ebola ou quoi, et quelqu'un est dans une foule, dit « Ah, s'il vous plaît, j'ai Ebola », les gens vont prendre la fuite. Tu te souviens de l'histoire de quelqu'un qui a donné son témoignage, voilà, il était guéri d'Ebola, et quand il a fini de donner un témoignage, il a voulu de remettre le micro au pasteur, le pasteur a fui, parce que tous avaient peur. Tu vois un peu, donc, une femme comme ça, là, n'a même pas besoin de lutter pour qu'on lui cède le passage.
Très bien.
Donc, quand il s'approche, là, que déjà l'odeur, je ne sais quoi, là, vous-même, là, vous allez céder le passage. Donc, le test biblique ne dit pas que la foule l'avait empêché.
Donc, il n'y avait pas d'intérêt pour que la foule l'empêche.
Non, puisque Jésus avançait, voilà. La femme est venue par derrière.
Très bien.
Donc, Jésus avançait, les gens avançaient avec, elle venait par derrière. Donc, tu peux imaginer la situation où, bon, quand elle s'approche, là, les gens s'écartent, et puis bon, ça lui permet de... Elle, tout ce qu'elle voulait, c'est pas toute la personne de Jésus, c'est juste...
Le pain de son vêtement.
C'est tout ce qu'elle voulait. C'est ça, sa foi.
Très bien. Alors, que fit-elle pour passer par la foule?
Bien, là, quand tu prends le test dans l'original, là, une phrase qui a sauté dans le rendu en français dit « She whispered these words to her pain ». Et cette portion-là nous ramène au test de Marc, chapitre 5, verset 28, « Car elle disait en elle-même, d'accord, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri ». Donc, c'est ce que Jimmy Swaggart a rendu par « She whispered this word through pain ». Donc, maintenant, il faut établir le lien entre la dernière partie de ce strophe avec la première phrase du refrain.
Très bien.
C'est-à-dire que ce qui importe pour elle, c'est la foi. C'est ce que le test, dans sa forme originale, est en train de dire. Donc, si seulement je pouvais toucher. Donc, c'était ça qui l'a persuadé. Donc, quand, malheureusement, dans les deux cas, on nous a dit que la foule lui faisait obstacle, ce qui n'est pas le cas, bien entendu. Mais là, elle a pu aller jusqu'à
son objectif.
Voilà, elle a atteint l'objectif.
Oui. Bien, où avait-elle rencontré Jésus?
Oh, mais d'après le test biblique, c'était en chemin. Jésus était en route vers la maison de Jaïrus. Il n'était même pas encore arrivé.
Ça veut dire qu'on peut recevoir Jésus
n'importe où.
Voilà.
N'importe où. Oui. Moi, je l'ai reçu en pleine rue aussi.
Ah bon?
Ah, bien sûr.
Dans la rue?
Ouais. À côté d'un cimetière. Là,
quand
vous prenez la... tu connais, pour ceux qui connaissent Lomé, vous arrivez à Bella. Il y a une boulangerie Boule Togo. Dans l'angle, bon, pour ceux qui n'étaient pas nés dans les années 70 et plus là, vous ne pouvez pas connaître. Sinon, vous arrivez là-bas, il y a une voie qui mène directement, qui vous fait toucher le mur d'enceinte du cimetière de Béplage. Hein? Le monsieur était debout à côté, et d'abord il était dans la rue, puis il a commencé après. Il s'est mis d'un. Oui, c'est un monsieur d'une cinquantaine d'années.
Oui.
Et il s'est mis un peu contre le truc. Et il a commencé à prêcher. Bon prédicateur qu'il était, à un moment donné, il a su faire le lien, il a dit, vous voyez, vous avez dit, vous écoutez la parole de Dieu, vous voyez tous ces tombes-là, ceux qui sont dedans là. Eux aussi, une fois, ils ont écouté l'évangile et ils ont refusé.
Mais tu passais par là ou bien tu étais.
Non, on préparait le probatoire et on allait à Béplage.
Ah, d'accord.
Et on faisait un groupe de travail là-bas. Et un ami à l'époque me disait, il y a un gars qui vient prêcher, il dit, moi je vais lui poser des questions. Il dit, non, lui, c'est pas pour les questions. Lui veut juste parler de
Qui voulait poser les questions?
Je m'étais approché.
Qui voulait poser les questions? C'était toi?
Oui, bien sûr.
Oh.
Oui, parce qu'à l'époque, tu sais, catholique, avec les notions religieuses, tout ça là, on croit connaître tout. Donc je voulais faire un petit débat. Donc il dit non. Le monsieur n'a même pas ce temps-là. Il a prêché Jésus de la Bible. Il a expliqué. Donc, Et comme de par mon habitude, j'ai commencé à noter les versets qu'il citait. Au point que quelqu'un m'a dit, vous êtes son disciple. J'ai dit, non. C'est Jésus seul qui a des disciples. J'ai juste répondu comme ça. Donc quand il a continué son message, il a dit, ces gens pensaient qu'il allait vivre longtemps sur terre. Mais malheureusement, ils sont morts avant d'avoir eu l'occasion de se repentir. Donc quand il a lancé l'appel...
Dans la rue.
Oui, dans la rue, non? Quand il a lancé l'appel, j'ai commencé à confesser mes péchés.
Au bord de la route.
Quand tu veux, quand on a une situation sérieuse là, qu'est-ce que la rue va me faire? Donc j'ai confessé mes péchés, et d'un seul coup, une joie que j'ai jamais expérimentée a rempli mon être. Sur le champ, la première idée qui m'était venue, je vais suivre ce monsieur et je vais parler de Jésus aux gens. J'ai oublié l'examen.
Probatoire.
Alors
que tu étais à quelques jours de l'examen.
Oui, bien sûr.
Et tu l'as suivi?
Je l'ai suivi, il est rentré dans une ruelle là, il est allé à droite, j'ai pensé qu'il était allé à gauche.
Tu
j'ai fait tout le cheminement à gauche, je ne l'ai pas trouvé, je suis revenu sur mes pas, non plus. Le lendemain, je suis revenu sur le lieu où il a prêché, je ne l'ai plus jamais revu.
Jusqu'à ce
Mais
jour.
Ce que j'ai su,
oui.
c'est que la nuit, là, quand je m'étais endormi, j'ai vu le ciel.
Wow.
J'ai vu le lieu, j'ai vu les gens là-bas.
Wow.
C'est un lieu où les gens sont transparents.
Hmm.
Personne ne m'avait dit que quelque chose comme ça existait.
Et c'était en quelle année, là?
1989.
Waouh. Wow. 33 ans.
Ouais. Donc c'est comme ça. Donc après, mais là, quand je m'étais réveillé, je m'étais réveillé avec la conviction que le lieu que tu as vu là, ça c'est le ciel.
Mmh.
Jusque-là, j'avais une Bible en bon catholique, on ne lit pas la Bible. Hein. C'est ce qu'on nous dit à l'église, le prêtre nous dit là. Qu'on... Et après, maintenant, j'ai commencé par lire par moi-même.
Mmh.
C'est là où je me rends compte. Donc Dieu, il est réel. Et après, il a commencé par me parler.
Mmh.
Tu vois un peu. Donc, c'est pour cela que je dis. Peu importe le lieu où vous avez écouté le message, si le vrai message vous est prêché et que vous avez répondu par la foi, le miracle s'opère instantanément. Et l'esprit maintenant a la charge de vous donner la conviction que vos péchés ont été pardonnés, vous avez été purifiés et que vous êtes devenus enfants de Dieu. C'est l'esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui fait. Si votre conversion n'est pas réelle, vous n'allez pas expérimenter cette conviction-là qu'on a de savoir que nos péchés sont pardonnés et que nous sommes devenus enfants de Dieu.
Mes souffrances, elles viennent donc à Jésus. Quand la foule essaya de l'empêcher, elle pleura à Jésus avec douleur. Touchez Jésus.
Touchez Jésus,
dès à présent aborder la partie refrain de ce cantique. Toucher Jésus est ce qui importe. La femme était une contemporaine de Jésus, donc toucher Jésus était chose aisée pour elle. Jésus était présent physiquement. Alors, mais pour nous aujourd'hui, comment pouvons-nous toucher concrètement Jésus? Jésus n'est plus là, il n'est plus présent. Comment est-ce qu'on peut toucher d'abord Jésus? Est-ce possible?
Oui, oui.
En tant que chrétien aujourd'hui, de ce 21e siècle, est-ce qu'on peut toucher Jésus?
C'est possible.
Comment?
Tu vois, oui, je vais expliquer.
Très bien.
Elle a touché Jésus par la foi. Elle a cru en qui Jésus était. Et elle a cru en ce dont Jésus était capable. D'accord? Le message de l'évangile n'a pas changé. Peut-être que les supports que nous utilisons aujourd'hui ont changé, ont évolué. Au temps des apôtres, c'était des papyrus, des parchemins, d'accord, qu'on utilisait. Aujourd'hui, on peut utiliser l'Internet, les téléphones, tout cela. Ça, ce sont les supports. Mais le message ne change pas. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, si un ange vient du ciel, te présenter un message de l'évangile qui est contraire au message qui est écrit dans la Bible. Que cet ange-là soit anathème, qu'il soit maudit. Et il est allé jusqu'à dire ça sur sa personne. Si nous-mêmes, en tant qu'apôtres, nous venons vous prêcher un autre évangile que ce que les apôtres ont prêché. Ce que Jésus a prêché, Jean-Baptiste a prêché, ils ont prêché quoi ? Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. À sa résurrection, Jésus a dit que la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom. Personne n'a le droit de changer ça. Si quelqu'un prêche autre chose, l'esprit qui l'anime n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit te poussera à dire ce que les apôtres ont dit. Pourquoi ? Quand on parle de l'évangile, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, ils sont confus. Dans Actes chapitre 10, hein, pour répondre à la question, c'est important pour moi, verset 42, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit chez Corneille. Mon frère, ma soeur, quand tu es chez le gouverneur là, il faut dire la même chose. Ce n'est pas seulement les femmes qui vendent au bord de la route là, sur lesquelles il faut crier. Répentez-vous, répentez-vous. Le gouverneur aussi là, peut-être que lui-même ses péchés sont des péchés classiques. Mais c'est un pécheur au même titre que le pauvre là, au bord de la route. Il faut lui dire ça. Pierre n'a pas eu peur de dire, parce que Corneille n'était pas un soldat de troupe. D'accord. Mais il lui a dit, Jésus nous a ordonné, c'est un ordre. C'est l'évangile du royaume ça. D'accord. Et pourquoi? Parce que c'est la même chose. Jésus, quand il a ressuscité, Luc 24, 46, ainsi il leur dit, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, sans exception. À commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Donc c'est clair que c'est par ce moyen-là qu'on entre dans le royaume. Tu prêches le vrai message à la personne se repentira de ses péchés. D'accord? Maintenant, elle va avoir foi en l'œuvre que Jésus-Christ a accompli. C'est pour cela Paul, il a bien compris cela, il dit, dans Actes, je crois bien, Actes chapitre 20, le verset 20, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Il y a une différence entre la prédication et l'enseignement. Et il dit, en annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu. C'est Dieu que nous avons offensé. Et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est mort à notre place. Si quelqu'un passe à côté de ça là et fait autre chose, prend juste un verset, on peut prendre un verset de l'Ancien Testament, je ne sais quoi là. Mais le message doit revenir à ça. Le message doit revenir à la repentance. Jésus ne va pas se repentir. Non, c'est nous qui nous repentons. Et sur la base de ce que lui a fait, nous obtenons le pardon de nos péchés. Donc le message là aura pour point de chute ceci. Chaque fois qu'on rencontre une foule, il ne faut pas dire non, c'est des frères, c'est des sœurs. Entre temps, quelqu'un aurait peut-être regardé. Il faut ramener le message au salut de l'âme. D'accord? Maintenant, comment toucher Jésus? Le Jésus dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est plus le Jésus de Nazareth. Hein? Ce n'est plus celui-là qui il ne pouvait être qu'à Galilée à un moment donné. À Capernaum à un moment donné. Non, il est devenu un esprit vivifiant. Ce n'est plus l'homme physique. Il est maintenant glorifié. Ce qui fait que partout sur la face de la terre, je peux maintenant toucher les trois attributs manifestes de la divinité, l'omnipotence, l'omniprésence et l'omniscience. Partout sur la face de la terre, si quelqu'un invoque Jésus en toute sincérité, l'Esprit de Dieu est là pour concrétiser la réalité de qui Jésus est.
Donc pas la prière. Donc par la prière on peut toucher
Jésus. Ça c'est un. Autre chose, la lecture des Saintes Écritures, on peut toucher le Seigneur. Par la lecture. C'est pas une lecture intellectuelle. Le livre de Dieu là, c'est différent des autres livres écrits par les hommes. Quand on va devant ce livre là, on va dans un esprit d'humilité. On va avouer Dieu, sans te mentir, moi-même là. Si je dois lire ça, c'est sujet, verbe, complément, concordance de temps là, que je vais juste lire. Mais je veux comprendre de quoi il est question. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Et le Saint-Esprit t'enseigne. Peut-être que tu as lu le texte là plusieurs fois. Et le jour là, quand il va éclairer cette portion là, tu vas comprendre ça d'une manière toute nouvelle. Si tu reviens demain dans le même esprit, tu vas encore comprendre d'une façon tout à fait nouvelle. Donc, là, par la lecture, par l'écoute de la parole de Dieu, par l'adoration, on peut toucher Jésus. D'accord? L'adoration se fait en esprit. C'est pas juste parce que j'ai chanté quelques morceaux là. Non, non, non. C'est un esprit. Et en ce moment, le Saint-Esprit établit le lien. Le Saint-Esprit en ce moment joue le rôle de pontife. Hein, dans l'étymologie, faire le pont. Il fait le pont entre ton esprit et l'esprit du Christ. Actuellement, Jésus est dans la fonction du Christ, de loin, du Messie. C'est pour cela qu'il est assis à la droite du Père. Et c'est sur cette base-là que tout genou se fléchissent devant lui et que les langues confessent sa souveraineté suprême sur l'univers créé, visible ou invisible. Donc c'est comme ça. Donc à travers la louange et l'adoration, ça peut se faire. Mais c'est pas aussi automatique parce que Dieu connaît nos cœurs. Si le cœur n'est pas droit devant Dieu, tu peux chanter jusqu'à baver. Il n'y aura rien du tout. S'il te dit, avant de venir chanter, là, règle les problèmes que tu as. Si tu ne veux pas régler, tu peux savoir chanter, tu vas chanter. Les gens peuvent danser, les gens peuvent faire tout, mais il n'y aura rien du tout. Parce que celui qui porte le message en ce moment, c'est toi qui es comme celui qui doit ouvrir la porte pour que la gloire descende. D'accord? Donc, c'est important notre état d'être spirituel. C'est vrai, personnellement, moi je le fais. Il y a des moments où, quand je veux dormir, je peux mettre la Bible sur fond sonore, hein, assez bas, et je m'endors. Et mon subconscient perçoit la lecture des Écritures. Mmh. Quand je l'ai fait plusieurs fois, tu te réveilles tout frais. Mmh. D'accord? Je ne vous demande pas d'aller faire comme on fait aujourd'hui où les entonnoirs là, qu'on doit mettre sur un champ de campagne d'évangélisation, on le met à l'intérieur de l'église et on crie et on dérange les gens. Non. D'accord? Sur fond sonore, à peine perceptible, et vous vous endormez. Donc, à travers la parole de Dieu, la lecture, l'écoute, la prédication, l'adoration, la louange, et même, je peux même ajouter la contemplation. Ça, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas aujourd'hui. Mmh. La contemplation, ça prend du temps. C'est un exercice. Ça prend du temps. Mais quand tu dépasses la première étape là, ça devient tout à fait normal pour toi. C'est comme comment, vous voyez, quand vous écoutez la radio, vous captez une fréquence, mais ça fait... Vous entendez un peu ce qu'on est en train de dire, mais il y a un bruit. Jusqu'à ce que vous soyez au même diapason que la fréquence. Et puis, ça devient clair. Donc, la contemplation, bon, si Dieu le permet, un jour, on va organiser peut-être série de rencontres, de séminaires pour toucher ces éléments-là. Parce que le temps est toujours contre nous, c'est pour cela qu'on ne va pas dans les détails pour vous expliquer les choses. Donc, c'est important de comprendre cela. Aujourd'hui, les gens font autre chose. C'est-à-dire que ce n'est plus la foi en la parole de Dieu que les gens manifestent, mais plutôt la foi dans les serviteurs de Dieu. Soyez sincères vous-même. Quand un frère qui n'est connu nulle part vous prêche l'évangile, ou bien vous exhorte, quelle considération avez-vous pour le message? Non, vous laissez le message, vous considérez l'individu qui vous parle. Si Philippe était à notre temps là, il n'irait même pas à l'évangélisation, parce que tout a été fait pour faire des gens membres d'église, alors que dans la première église, tout le monde était disciple, tout le monde était appelé à évangéliser. C'est ça le vrai formateur, tu formes les gens qui se reproduisent. Quand les gens refusaient d'obéir à Actes chapitre 1, verset 8, Dieu a été obligé d'accomplir Actes chapitre 8, verset 1. Il les a dispersés. Donc tu vois, donc il y a certaines situations, Dieu à un moment donné, comme tu ne veux pas bouger là, il va te faire bouger de force. Donc, disons aux gens que l'évangélisation personnelle est le devoir sacré de tous les disciples, de tous ceux qui se disent chrétiens. Faut pas rester là pour dire non. Si tu ne peux pas aller, tu peux envoyer. Oui, mais Jésus n'a jamais dit ça. Il dit allez par tout le monde. C'est les hommes qui ont réfléchi en te disant que mon frère, si tu ne peux pas aller là, donne-nous l'argent, nous on peut aller. Et beaucoup maintenant se prélassent dans leur fauteuil pour dire ok, vous avez besoin de combien pour l'évangélisation, ok. Coucou, viens, amène-moi apporte-moi le chéquier, ok. Que prenez, allez évangéliser. Oui, moi je vous ai envoyé. Non, Jésus, c'est celui qui nous envoie. Toi, tu n'envoies personne. Il faut aller. Même si tu finances l'œuvre là. Vous ne pouvez pas imaginer la joie qu'on ressent quand tu amènes quelqu'un à Jésus. Je ne sais pas si cela vous est une fois arrivé. Plusieurs fois. Tu amènes quelqu'un à Jésus. Quand il se répand là, d'un seul coup, il y a cette joie qui revient encore. parce que le ciel se réjouit de ce que tu viens d'aider quelqu'un à entrer dans le royaume. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas investir dans former des disciples? Jésus revient bientôt, former des disciples et aider les gens à aller prêcher l'évangile plutôt que de les rassembler, de leur dire la même histoire chaque fois et puis maintenant de se satisfaire de ce que hier ils étaient 50, aujourd'hui ils sont 75, après ils sont 200. Non, ces 200 là, si tous ces 200 partaient chacun évangéliser au moins une personne, vous verrez que la prochaine fois au lieu d'être 200, ils seront 400. Vous voyez un peu, donc c'est l'église même qui se tire une balle dans les pieds quand elle ne veut pas faire ce pourquoi le Seigneur nous a dit ce que le Seigneur nous a dit de faire, évangéliser. Donc c'est la même chose, vous pouvez toucher Jésus aujourd'hui. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, c'est facile de toucher Jésus. Dans votre adoration, le Saint-Esprit établit ce contact-là et vous savez qu'il est là, en face de vous. Parfois même, il vient en face de vous. Parfois, à l'intérieur de vous, quand il parle, tu sauras que c'est lui. En esprit, tu n'as pas besoin de voir un badge sur la poitrine de quelqu'un pour savoir qui il est. Quand Jésus vient, tu sauras en même temps que c'est lui. Même si Abraham vient vers vous, vous ne l'avez jamais vu. Mais parle, tu sauras en même temps que ça, là, c'est Abraham. Donc, frères et sœurs, il y a beaucoup que l'on peut expérimenter juste en étant sincère et en soupirant après une communion intime avec le Seigneur.
Elle pleura à Jésus avec douleur, toucher Jésus.
Touchez Jésus, j'étais lié et j'appris que Jésus pourrait tout me faire. Et quand finalement je touchais Jésus, gloire au Seigneur, quand je fus libéré, touchais Jésus. Touchais Jésus.
Nous allons dès à présent entamer la deuxième strophe, l'autre Laurent. Dans la deuxième strophe, le chantre fait une application de ce que la femme a vécu dans la première strophe à son cas. Et c'est vraiment intéressant à ce niveau. Et quel est son cas? Ou bien, quel était son cas?
Bien. Vous savez, quand on enseigne la parole de Dieu, vous lisez le texte, vous comprenez le texte, vous expliquez le texte, et puis maintenant, vous faites une application. D'accord? Et donc, c'est ce que l'auteur de la chanson a fait. C'est-à-dire que vous avez le texte biblique, et maintenant, il fait une application, et c'était son cas à lui.
Et c'est ce qui nous manque dans l'église aujourd'hui.
Oui, bien sûr.
On n'arrive pas à faire l'application.
Les gens ont peur de faire des applications.
On lit la parole, on médite, mais on ne s'applique pas la parole.
Ouais.
Ça fait un gros souci.
Tu sais, si nous étudions nos leçons de la manière dont nous écoutons la parole de Dieu chaque fois à l'église, là, personne n'aura un diplôme en tant que je ne sais quoi. Quand je vais à l'église aujourd'hui, je m'assois et que à travers le message, j'ai appris qu'il faut pardonner, par exemple. C'est juste un exemple. Maintenant, en tant que personne là, c'est ce que Dieu m'a dit le jour là. Je demande à Dieu, à moins que toi-même tu ne sois pas conscient. Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je n'ai pas pardonné? C'est ça l'humilité, non? Tu as écouté le message, dis-moi. Et puis il te révèle que oui, en famille là, tu ne parles pas avec ta tante, avec tel. Et tu retournes, tu vas les voir. Tu es en train d'appliquer la parole. Et quand tu arrives à faire ça,
Il y a des situations où tu n'as même pas besoin de prier. Parce que tu as obéi ce dont tu as besoin, Dieu te donne. Moi, je n'ai pas honte de parler de quoi, de telle situation. J'étais un nouvellement converti, tout le reste là. Je vivais loin de la maison familiale. Je suis parti voir ma mère. On a eu une discussion et puis bon, j'ai haussé le ton et j'étais parti. J'étais content d'avoir défendu mon point de vue. Le lendemain matin, je m'étais mis à genoux pour prier. Le Saint-Esprit dit, tu veux faire quoi? Il dit, je veux prier Dieu. Tu ne peux pas parler. Hier, tu as haussé le ton devant ta mère. Tu vas te lever, tu vas aller la voir et tu vas présenter les excuses. J'ai voulu négocier, dit, après la prière. C'est maintenant.
Ici et maintenant même.
Ah ben oui. J'ai pris mon vélo. En ce moment, j'habitais vers Akoresewa. Ma maman est vers l'Omnava, motivé comme ça. J'étais revenu. Quand elle m'a vu, tu sais, les mamans, c'est comme ça, elle a dit, a oublié tout. Quand elle m'a dit, ça va, ça ne va pas. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Viens t'asseoir. Et quand je lui ai présenté les excuses, elle était étonnée, elle dit, oh, qu'elle-même, elle a oublié. C'est donc ce que je t'ai dit, tiens, mon fils a vraiment changé. Ma soeur, mon frère, si tu es réellement converti, les premières personnes qui vont découvrir ce changement-là, si tu es marié, c'est ton conjoint. Si tu n'es pas marié, c'est des gens qui vivent avec toi. Ils verront le changement. Parce qu'avant la conversion, moi, je ne demandais pas pardon. Pardon. C'était comme ça, je vivais. Elle était étonnée. Et j'étais reparti
pour maintenant prier. Dans ton quartier.
Ah oui, bien sûr. Pour maintenant prier.
Et c'était maintenant dégagé.
Bien sûr. Tu vois, donc, quand si nous obéissons chaque fois comme ça, hein, frère, les gens se rendront compte du progrès que tu fais dans la foi. À chaque fois que tu écoutes le message a dit quoi? Pourquoi tu veux épargner? Comment on épargne de l'argent? Tu veux épargner la repentance? Et que ça a touché quelque chose, tu dis non, la prochaine fois. Et après, non, la prochaine fois. Ou à un moment donné, on croit que nous, on n'est pas venu à un point où on ne peut plus demander pardon, où on ne peut plus régler les choses. Et nous vivons dans cet état comme ça. C'est tout à fait normal que Dieu ne te parle plus. Bien sûr.
Ok.
C'est comme ça, Dieu, il agit.
D'accord.
Et parce que tu ne peux pas t'imposer à lui.
Et c'est l'application que le monsieur fait.
Que l'auteur est en train de faire ici. D'accord, maintenant, dans son cas, lui, il était lié. Lui, il n'était pas malade physiquement. Il était lié. Et dans le texte original, il dit, « When this prisoner finally touched Jesus. » Donc, il se savait prisonnier. D'accord? S'il y a des maladies physiques, il y a des maladies spirituelles aussi. S'il y a une prison physique, il y a une prison spirituelle et éternelle. Il était lié par le péché, il était prisonnier du diable. Et donc, quand il est venu, il a écouté le message. C'est pour cela qu'il s'était approché. Tu sais, autrefois, les églises, là, quand on les construisait, il y a toujours de l'espace qu'on laisse devant, que les gens appellent autel. C'est-à-dire, après le pupitre, là, quand vous voulez venir vers la foule, il y a des marches où c'est dégagé, où les gens pouvaient venir là, s'agenouiller et prier. D'accord? C'est le temps, le bon vieux temps là où les gens... Oui, voilà. Donc, c'est ce qui lui était arrivé. Et quand il s'est repenti, et il a su. Il a dit, gloire au Seigneur, car je suis libéré. Comment est-ce qu'il a su? Parce que sa repentance était authentique, sa conversion était authentique. L'Esprit a produit en lui la conviction que ses péchés ont été pardonnés, qu'il a été affranchi. C'est pour cela que la joie a rempli son cœur. Tu sais, quand tu lis par exemple les Écritures, je lis par exemple Psaume 107, verset 10, « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. » D'accord? Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Ça, c'est des enfants d'Israël. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ils humiliaient leur cœur par la souffrance. Ils succombaient. Personne ne leur secourut. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Tu vois, quand tu te rebelles contre Dieu, contre sa parole, Dieu, là, il va te laisser. Et quand tu vas te trouver dans des situations sans issue, là, dans la détresse, maintenant il attend pour voir qu'est-ce que tu vas faire. Parce que nous sommes créés pour dépendre de lui. Tu vas avaler ton orgueil et tu vas crier. Quand on presse l'évangile, on dit de prier, les gens sont debout, ils disent, moi-même avec ma veste maintenant, je suis en train de me repentir, je vais plutôt prier mentalement, et bon, parce qu'il a honte. Il y a plein de gens qui sont comme ça. Ils veulent pas. Non. Et non, si je le fais maintenant, on saura que c'est de moi que le prédicateur a parlé. Et donc, non. Tu veux régler ta vie avec Dieu. Et là, il dit dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres. Ça, c'est un. De l'ombre de la mort. Ça fait deux. Et rompit leurs liens. Qu'est-ce qui arrive après? Quand quelqu'un est libéré. Et qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes des reins et il a rompu les verrous de fer. Tu vois, c'est presque la même chose quand tu lis la chanson, il dit, gloire au Seigneur car je fus libéré. Ce psaume, la psaume 107 que je suis en train de lire, et ces versets 15 et 16 là, vous allez voir en anglais, les anglophones ont su rapidement tirer profit en chantant les psaumes. D'accord? Il s'appuie sur les textes tels quels. Là, par exemple, on a un cantique qui dit, oh, that man will praise the Lord. Oh, that man will praise the Lord. For his goodness and for his wonderful works. To the children of men, to the children of men. He has broken the gate of brass and cut the bars of iron in sunder. C'est ce texte-là qu'ils ont pris. Ça veut dire qu'ils sont en train de dire ce que dit le texte. Nos chantres d'aujourd'hui, là, donnez-nous des textes que vos chansons soient bibliquement fondées. Si ce n'est pas bibliquement fondé, l'esprit ne vous accompagne pas. Il y aura la mélodie, mais il n'y aura pas l'esprit. Parce que le Saint-Esprit ne fera rien qui soit contraire à sa parole. David chantait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et il a compris l'importance. C'est pour cela que avant qu'il ne meure, il avait établi les chantres dans le temple. Ce n'étaient pas des musiciens qui allaient de lieu en lieu chanter pour avoir de l'argent. Ces gens-là étaient préposés au temple et ils louaient l'Éternel. Aujourd'hui, quand quelqu'un commence là, dans l'église, et que d'un seul coup, il prend un peu d'importance là, allez, il a le vent en poupe, et là, il ne vient même plus à l'église. Certains, ben, ils viennent juste pour voir, ça va, vous êtes là, ok, j'ai fait une tournée, je suis de retour. Quand il est en manque là, il va organiser des croisades, des concerts et autres. Vous ne pouvez pas utiliser Dieu pour vous enrichir. C'est pas possible. Quand vous faites ça, là, vous êtes en train juste de lui montrer, vous ne savez pas qui il est. Vous ne savez pas qui Dieu est. Il vous a donné les chansons, la capacité là, pour que vous puissiez le louer. C'est ça son objectif.
Très bien.
Si les prédicateurs faisaient ce que vous faites là, donc tous les prédicateurs vont être de quoi, des vendeurs ambulants, de je ne sais quoi. Il y a des gens qui sont des brebis galeuses, qui font ces choses, mais un véritable serviteur de Dieu sait qu'il doit parler de la part de Dieu. C'est pour cela qu'il cherche la face de Dieu, il prie. Si tu as chance, toi, tu cherches la face de Dieu, tu pries, il te donne une chanson pour que tu le loues. Pourquoi? Non pas pour que tu deviennes une sorte de star. C'est dans le monde qu'on cherche, dans le monde là, dans le royaume du diable là, il y a des stars. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de star. Personne n'est star. Nous sommes tous serviteurs et servantes. Dès que quelqu'un se laisse pénétrer l'idée dans la tête, l'idée selon laquelle je suis mieux que quiconque là, au gain, tu es tombé. Si tu te compares aux autres, tu es tombé. Parce que dans le royaume, la seule personne à qui tu peux te comparer, c'est à Jésus. Et à chaque fois, tu vas te trouver insuffisant, incapable. Et il a, dans sa sagesse, il nous a maintenu dans cet état pour que nous puissions progresser dans notre intimité avec lui et dans le service. L'apôtre Paul a bien dit, et Dieu dit, écoute, toutes les révélations que je t'ai données là, si je te laisse, tu vas devenir orgueilleux. C'est pour cela qu'une écharpe lui était mise dans la chair.
Très bien.
Et quand il est parti crier, Dieu dit, non, écoute, moi là, chez moi, je fonctionne quand tu te rends compte que tu es faible. Quand tu confesses ta faiblesse là, ma puissance se manifeste. Attention, ici il n'est pas question du péché. D'accord? Si tu confesses ton incapacité, chaque fois avant de venir faire l'émission, nous confessons notre incapacité. Seigneur, on va dire quoi? Mais là, si tu dis non, ok, bon, ça fait des années que je fais ça là, je maîtrise, tu n'auras rien du tout. D'accord.
Merci, l'autre Laurent. Toucher Jésus est ce qui importe, et ta vie ne sera plus la même. Il n'y a qu'une seule voie pour le toucher, croire seulement en invoquant son nom. Voilà. C'est fini pour cette émission. On se retrouvera la semaine prochaine si notre Seigneur tardait à revenir. On vous laisse avec le cantique Toucher Jésus, version française, chant de Jimmy Schwagat, l'évangéliste.
Une femme essaya plus ce docteur. Mes souffrants, élevez donc à Jésus. Quand la foule essaya de l'empêcher, elle pleura à Jésus avec douleur. Touchez Jésus,
touchez Jésus, aime-le.